Merci. Donc, comme du coup disait Nicolas, moi aussi je suis très contente d'être là ce soir pour pouvoir aborder le sujet de l'épuisement parental, qui est un sujet qui se parle encore peu, pas suffisamment à mon goût et qui est encore tabou parce que fait entre autres de beaucoup de honte, de culpabilité pour les parents qui vivent à un moment donné dans leur parcours de l'épuisement parental. Et donc voilà, je suis vraiment très contente qu'on puisse aujourd'hui aborder cette thématique et peut-être du coup diffuser un petit peu l'information et ouvrir aussi cette possibilité aux parents, en tout cas de pouvoir venir en parler autour d'eux, aux professionnels. Enfin, voilà. Donc peut-être pour démarrer un peu la présentation, en effet, donc moi je m'appelle Émilie Hamon, je suis donc éducatrice spécialisée et intervenante systémique. Intervenante systémique, c'est-à-dire que la systémie, c'est une manière de regarder le fonctionnement, là entre autres de la famille, comme un système qui fonctionne ensemble et les relations, la communication entre les uns et les autres. Aujourd'hui, je fais professionnellement beaucoup de choses différentes. Je fais de la formation, je fais de l'analyse de la pratique professionnelle, donc auprès des collègues du secteur de l'animation, secteur social, médico-social. Et puis, j'ai un cabinet sur Angers où je reçois des parents, des familles qui se retrouvent à un moment donné dans leur parcours, dans une difficulté éducative ou relationnelle avec des enfants ou des ados. Et ce cabinet, donc, il est situé à Angers, à côté du Palais de Justice, et il s'appelle Famille et moi, pour émoi de l'émotion. Peut-être juste pour vous dire que ce qui m'a amenée à m'installer, c'est un mélange entre mon parcours professionnel et ma vie de famille, de maman, qui m'ont amenée à un moment donné à faire le choix de pouvoir m'installer en libéral pour soutenir aussi d'autres parents, puisque moi-même, à un moment donné, dans mon rôle de parent, j'ai été un peu en difficulté. Et je n'ai pas trouvé beaucoup de professionnels pour pouvoir soutenir ce qu'on traversait. Donc voilà, je me dis, ben moi, ma part aujourd'hui, c'est d'accompagner les autres parents. Donc aujourd'hui, si j'ai commencé par accompagner les parents, ben, finalement aujourd'hui, je me rends compte que j'accompagne plutôt les familles dans leur globalité et que c'est un petit peu du cousu-main finalement. Parfois, j'accompagne la famille, parfois, j'accompagne que les parents, parfois, c'est pas possible par les enfants, les ados, et parfois c'est de l'alternance, parfois j'accompagne aussi les fratries. Voilà, c'est vraiment, ça dépend de ce qu'il y a besoin. C'est quoi la problématique que la famille elle rencontre? Et dans ce contexte de consultation au cabinet, j'ai rencontré beaucoup de parents très en souffrance, en fait, dans leur rôle parentaux. Et ça m'a amenée à aller me former plus précisément sur cette question de l'épuisement parental auprès de professionnels belges. Qui ont fait beaucoup d'études et de recherches sur l'épuisement parental. Voilà, en dehors de mon travail, ben, moi, donc, je vous ai dit, je suis maman de deux garçons, Alban, 13 ans, Gabin, 10 ans, et c'est un petit peu comme ça que j'avais envie de commencer, c'est-à-dire que j'avais un peu envie de vous raconter, moi, ma soirée d'hier soir. Parce que j'ai quitté le travail hier soir et je suis allée chercher Gabin à l'école. J'ai été interpellée par la maîtresse qui me dit, il est tombé, il a cassé ses lunettes, c'est quand même un problème, la branche est tombée, bref, inutilisable. Ok, donc moi je me dis, ça y est, ma soirée elle est complètement désorganisée, c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu. Bon, c'est pas grave, je rentre, quand même, il prend son goûter, je repars l'emmener à son entraînement de tennis de table, parce que ça c'est quand même, c'était prévu. Entre-temps, moi, j'avais prévu autre chose, mais autant vous dire que la priorité, tout d'un coup, c'est de faire les lunettes. Donc, je vais chez l'opticien, je dépose les lunettes, j'attends qu'il les répare. Fissa, je pars au supermarché, je vais acheter 2-3 trucs pour le repas du soir parce que, entre-temps, le matin, j'ai fait un peu de ménage parce que je travaillais pas, mais du coup, je voulais faire des courses et j'ai pas eu le temps. Bref, je suis à la caisse, j'attends. Pendant ce temps-là, j'envoie un petit message à leur mamie pour dire on est toujours OK. Demain soir, pendant que je suis ici au 42, tu vas bien chercher les enfants? Oui, pas de problème, c'est toujours OK. Heureusement, parce que sinon, ça aurait été peut-être un petit stress supplémentaire. Je paye, parce que ça pourrait aussi m'arriver d'oublier de payer dans tout ce bazar. Je retourne retourne chercher Gabin, je rentre chez moi, j'accueille l'aîné, qui lui, entre-temps, est rentré du collège. Je m'installe, on fait les devoirs avec Gabin, j'écoute allemand parce que lui me raconte sa journée, je signe le carnet de correspondance. Pendant ça, je me dis, oh, au fait, j'ai fait des courses, mais du coup, j'ai oublié un truc, alors qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Bon, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Gabin, il va prendre sa douche, Alban, il me fait réciter son histoire jour parce qu'il a une évaluation le lendemain matin. Bon, du coup, je fais des pâtes, je sors du jambon, du ketchup, du gruyère, tout le monde est content, c'est hyper bien. Alban il part à la douche, Gabriel revient et dit mais maman du coup on peut faire à une eau? Oui, on peut faire à une eau, pas de problème. Donc je pars faire une partie de une eau avec Gabin. Pendant ce temps-là, je vais vérifier que l'eau est en train de bouillir, je me rassois, je continue la partie. Alban m'appelle, il me dit maman, est-ce que je peux avoir une serviette de toilette? Parce que c'est vrai qu'aussi, quand j'ai fait le ménage le matin, j'ai complètement oublié de remettre les serviettes de toilette. Bon, c'est pas très grave. Je me relève, je mets les serviettes de toilette. Bref, on continue la partie de Uno. Je gagne, il perd. Il fait une crise parce qu'il perd. Du coup, il est hyper triste d'avoir perdu. Je gère ça, on passe à table. Et là, je me dis, ok, dans 10 minutes, mon conjoint va rentrer du travail. Téléphone sonne, il y a un problème au travail. Je suis en retard, j'entre dans une heure. Ok. On respire.
Bonsoir.
Bonsoir.
Il n'y a pas eu beaucoup de thé. Ah, ça va. Ah, d'accord. Excusez-moi. Bonne soirée.
Ok. Donc je mange en me disant, tranquille, Émilie, quand ils seront couchés, tu vas regarder ta petite série devant le feu, où tu plaides. Ça va le faire et ça me donne du courage, voilà, pour poursuivre ma soirée. Demain est un autre jour, ça va le faire. Donc bah, voilà, comme vous, parce que j'imagine que ce que je vous raconte, ça vous parle bien aussi dans vos soirées, et beaucoup de familles, bah finalement, mon quotidien, comme le vôtre, parfois, c'est un vrai marathon. Les trajets, les activités, l'école, la maison, le travail, etc. Il y a des fois, on a le sentiment de plus trop voir le jour. Donc quand on nous dit, bah ouais, on commence une seconde journée, oui, voire même une troisième, parce qu'en fait, on en a quand même fait une le matin avant d'emmener les enfants à l'école. Plus la journée de travail, plus c'est un an, plus quand ils sont couchés, potentiellement, une quatrième qui démarre. Bon. Bah, c'est vraiment de se dire, d'être parent, c'est complexe, c'est stressant, et ça, c'est dès l'annonce de la grossesse. C'est-à-dire que finalement, on devient parent à partir du moment où on nous dit « Félicitations, vous êtes enceinte, ou elle est enceinte, et vous allez devenir parent. » Parce qu'à partir de là, en fait, on va rencontrer des nouveaux défis qu'on n'avait pas avant dans notre quotidien. C'est ce qu'on appelle finalement des nouveaux stresseurs. Ça, c'est important parce qu'on y reviendra après. La question du burn-out parental, c'est aussi l'équilibre entre les stresseurs et les ressources. Et donc, dans nos nouveaux stresseurs, on a tous les stresseurs qui sont liés à la transition vers la parentalité. Tous bah, les questionnements qu'on a, toutes nos peurs, tout bah, ce que nous, ça va modifier aussi dans notre quotidien, dans potentiellement l'augmentation des tâches domestiques, la diminution de notre pouvoir d'achat, la désorganisation aussi. Voilà, ça c'est vraiment tout ce qui nous arrive à partir du moment où on va devenir parent. Un autre stresseur qui nous arrive, c'est la conscience de tout ce qui pourrait arriver à nos enfants. Ils pourraient être malades, ils pourraient avoir un accident, ils pourraient avoir dans la grossesse une malformation, il pourrait y avoir une naissance prématurée, et dans leur vie, et quand ils seront ados, etc., etc. Et là, c'est tous les stresseurs de tout ce qui pourrait arriver et que tout d'un coup, on prend conscience en tant que parent. Il y a tous les stresseurs qui sont liés au fait que bah, des enfants, de fait, ils sont immatures. Donc les enfants, il va falloir qu'on pense à leur place, à tous leurs besoins, tout ce qu'eux-mêmes vont oublier. Donc on est un peu leur deuxième tête. Parfois leur première au tout démarrage, puis petit à petit un peu de moins en moins, mais après du coup on arrive à l'adolescence. Et là à l'adolescence, ben, on va vivre des nouvelles choses, on va vivre les tumultes de l'adolescence, les passages de tout va bien, rien ne va plus, voilà, toute cette vague émotionnelle. Dans les nouveaux stresseurs qui nous arrivent, ben, y a aussi tous les stresseurs qu'on n'avait pas avant, qui sont liés à notre exigence, qu'on va se mettre en tant que parent. Comment moi je vais être, entre guillemets, un bon parent. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'être un bon parent? Qu'est-ce que la société attend de nous en tant que bons parents? Et puis tous les stresseurs qui sont liés à une situation particulière quand on accueille par exemple un enfant qui est porteur de handicap, un enfant qui a une maladie, un enfant qui a des troubles, des apprentissages. Voilà, ça c'est des stresseurs supplémentaires que ne vont pas rencontrer la totalité des familles. Stresseur qui sera facteur de risque d'ailleurs supplémentaire sur l'épuisement parental. Donc, avec tous ces stresseurs, tous ces défis, ça n'empêche que, quand même, globalement, la majorité des parents s'en sortent plutôt bien. Pourquoi ? Parce qu'en face de ça, il y a un équilibre. C'est ce qu'on appelle finalement le stress parental ordinaire. Ça veut dire que quand on devient parent, bah, en fait, on sait un petit peu tout ça. On y est plus ou moins préparé. Et puis, tous ces stress-là, ils ne sont pas tous les jours, pas en même temps. Voilà, on a un peu de respiration aussi. Et puis, on vit aussi, en tant que parent, en fait, des éléments positifs qui viennent contrebalancer. C'est-à-dire, dans notre balance, bah oui, il y a des stresseurs, mais il y a aussi des ressources et des éléments positifs et de la fierté et tout ce qui aussi fait basculer la balance. Et que quand nos ressources, elles sont supérieures à nos stresseurs, bah on va du côté de l'épanouissement parental. C'est quand la balance, elle s'inverse, qu'on va plutôt du côté de l'épuisement parental. Donc là, j'ai envie de dire, pour l'instant, on est du côté de ce qu'on appelle le stress parental ordinaire. Et puis, imaginons, dans mon histoire de tout à l'heure, finalement, Alban, il n'est pas rentré du collège. Il n'est pas rentré à l'heure. J'arrive pas à le joindre. L'inquiétude, elle commence à monter. J'appelle les copains. Toujours personne. J'appelle la gendarmerie. Enfin voilà, là, tout d'un coup, je suis en train de vivre un stress intense dans une situation particulière. Bon, finalement, quelques heures plus tard, avant, il est retrouvé, il était chez un copain, il donne des explications, il s'en tire avec une bonne remontrance, potentiellement une bonne sanction, mais en tout cas, moi, mon stress parental, il va diminuer. C'est-à-dire qu'il est monté très très fort d'un coup, de manière très intense, mais il n'a pas duré très longtemps. Ça, c'est important parce que du stress parental intense, on peut en vivre, pour autant, quand ça reste un cas isolé, ce ne sont pas des choses qui conduisent au burn-out parental. Par contre, imaginons, mon autre fils, Gabin, quand j'étais chez l'opticien, en fait, il s'est gravement blessé au tennis de table. Il est parti hospitalisé en ambulance. Finalement, il se fait opérer. Ça dure plusieurs semaines. Il y a des grosses inquiétudes sur son développement cognitif. Est-ce qu'il va avoir des séquelles ? Comment on va se réorganiser dans ce grand chamboulement finalement dans notre organisation familiale. Donc là, on est en train de vivre une situation qui va durer longtemps et qui va sacrément nous désorganiser et venir chambouler, inquiéter, faire monter le stress parental de manière intense et pendant longtemps. Si j'ai des ressources qui permettent de faire redescendre la balance. Par exemple, je ne sais pas, moi, il y a du soutien familial. Mon employeur, il me permet de prendre des jours de congé. Il y en a d'ailleurs qui sont accordés, qui peuvent être accordés par la CAF quand on a un enfant en situation soit de handicap ou qui est accidenté ou hospitalisé. Voilà, je peux bénéficier de ça. Ça m'amène du soulagement. Eh bien, finalement, ça va faire rebasculer la balance. Et je ne vais pas basculer du côté du burn-out parental. Par contre, si ce stress il continue d'être déséquilibré pendant plus de temps, là, on est vraiment sur un terrain propice au burn-out parental. C'est important, je trouve, de dire ça parce que c'est vraiment le burn-out parental, c'est quelque chose qui s'installe progressivement. Voilà. C'est-à-dire que, bah oui, parfois, on se dit, non, mais là, ça va, on est dans quelque chose de... Tous les parents rencontrent ça, etc. Bah oui, c'est vrai, mais ça ne dure pas de manière aussi intensive pendant aussi longtemps pour tous les parents. Et pour certains parents, ils vivent ça, pour autant, il y a des ressources en face et d'autres pas. Donc, ce n'est pas parce que d'autres parents vivent la même situation que nous, on ne peut pas, à un moment donné, aller jusqu'au burn-out parental. Et... Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que le burn-out parental, c'est vraiment un syndrome qui a plusieurs facettes. C'est-à-dire qu'on va repérer plusieurs éléments qui vont nous alerter sur le fait d'être rendu jusqu'au burn-out parental. Et il faut savoir, comme le burn-out professionnel qui est plus marqué du côté de la sphère professionnelle, le burn-out parental, lui, il va être marqué vraiment du côté de la sphère privée et familiale. Et ça peut très bien se passer au travail. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très marqué dans la famille et dans le rôle parental. Alors, quand on est arrivé jusqu'au burn-out parental, bah, il y a plusieurs symptômes. Donc un des premiers symptômes, je dirais que c'est peut-être celui qu'on connaît le plus, c'est l'épuisement physique et émotionnel. Ça veut dire que vraiment, le parent, il a l'impression d'être épuisé, vidé, au bout du rouleau. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatigue qui se résout, on fait quelques bonnes nuits de sommeil et puis ça va mieux. Non, même les bonnes nuits de sommeil, elles ne suffisent pas à récupérer toute la fatigue et tout l'épuisement que le parent y ressent. Et voire même, quand il se lève le matin, la seule idée d'avoir quelque chose à faire avec ou pour ses enfants, ça vient coûter en énergie. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Il y a des parents qui ne vont pas réussir à se lever. Voilà, c'est-à-dire que là, pour le coup, ça prend un matin et c'est plus possible de se lever. Il y a des parents qui vont pouvoir dire que eux, même ils souhaiteraient mourir en fait pour juste pouvoir se reposer. Et puis, il y a des parents qui vont se lever quand même et vider toutes leurs dernières ressources physiques, psychique et émotionnel, et se mettre dans ce qu'on appelle en mode pilote automatique. Ils vont faire. Voilà. Lever, manger, emmener à l'école, aller chercher, faire les devoirs. Mais vraiment avec ce qui est plutôt du côté du deuxième symptôme, c'est-à-dire qu'une distanciation affective avec les enfants. C'est pas ne plus les aimer. C'est tellement difficile et ça coûte tellement que c'est un mécanisme de défense qui se met en route. C'est-à-dire que là, c'est pas du tout conscient en plus pour le parent, mais se désinvestir, se distancier au niveau de l'engagement, en tout cas l'affectif, c'est une manière du coup de se protéger et de tenir encore le coup, coûte que coûte. La difficulté là-dedans, c'est que le parent, il se rend compte qu'il est dans une distanciation et ça en rajoute dans la culpabilité. Donc plus il voit ça, plus il se sent coupable, et plus il se sent coupable, et plus il se dit qu'il a un mauvais parent, et plus il se dit qu'il a un mauvais parent, et plus ça augmente dans notre balance des stresseurs et des ressources, nos stresseurs. Et on verra qu'en fait, il y a plein d'éléments comme ça qui s'auto-alimentent dans le burn-out parental, et c'est en ça que c'est difficile aussi de pouvoir en parler. Parce que c'est difficile d'aller dire à quelqu'un « j'ai plus envie d'être avec mes enfants », j'ai plus envie d'aller leur dire bonne nuit, j'ai plus envie d'aller leur dire une histoire en fait. Moi j'ai juste envie, je vais me coucher. Voilà. Bah ouais, alors on peut le dire une fois, deux fois, ça passe. Mais quand on le dit tous les jours, bah au bout d'un moment on le dit plus, et puis on fait, et on fait, et on fait. Et ça en surajoute encore et encore. Un autre des symptômes du burn-out parental, c'est le contraste, le avant et le après. Et là aussi, ça en surajoute au burn-out parental. Parce que un parent qui a toujours été dans une distanciation affective ou dans du passage à l'acte, par exemple, auprès de ses enfants, on peut pas. Il y a d'autres difficultés, la question n'est pas là, mais ce n'est pas relié au burn-out parental. Parce que le burn-out parental, il y a avant, il y a le parent qu'on était et il y a le parent qu'on est devenu. Et ça, vraiment, ce contraste-là, c'est un élément vraiment très important dans la prise en compte du burn-out parental, parce que là aussi, ça vient surajouter. Parce que plus on regarde le parent qu'on était, et plus on se dit « mais c'est quoi ce parent que je suis devenu ?» et plus on est dans de la culpabilité et de la honte. Et là aussi, finalement, on est dans un cercle vicieux. Et du coup, tous ces symptômes-là, donc cette association, à laquelle d'ailleurs je n'ai pas dit, mais je voudrais rajouter la saturation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le parent, on disait tout à l'heure, il a plus envie, mais il prend aussi plus de plaisir. C'est-à-dire qu'être avec ses enfants, ça n'a même plus d'épanouissement. Il y a quelque chose à la fois de très fatigant et d'avoir l'impression que ce rôle, il en demande trop, en fait. Là, vraiment, le parent, souvent, il dit « Non, mais moi, je suis dans du trop. » Mais dans du trop qui dure depuis longtemps et qui est installé, pas dans du trop. À un moment donné, bah oui, hier soir, moi, j'étais dans du trop, quoi. J'avais qu'une envie, en effet, c'était d'aller me coucher. Mais c'était pas un trop qui dure depuis trop longtemps. Et ce qui est important de préciser, c'est que ce ne sont pas les enfants qui sont mis en cause dans le fait que leurs parents ils aient plus de plaisir et qu'ils saturent avec eux. C'est vraiment le rôle parental qui est mis à mal. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder, parce que sinon, on pourrait vite se dire « Mais c'est parce que les enfants, en fait, ils sont insupportables. » Parfois, oui. Mais parfois, c'est parce que dans notre rôle de parent, en fait, notre seuil de tolérance, il est tellement bas que tout paraît vraiment insupportable. Que les cris, c'est plus des cris, on a l'impression que c'est des hurlements, ça résonne partout dans la tête. Et que peut-être que si le parent, il était moins dans cette souffrance, dans ce rôle parental, ben finalement, peut-être que les cris lui paraîtraient beaucoup moins forts. Voilà. Dans les conséquences du burn-out parental, elles sont pour le parent, mais on l'a bien compris, finalement, elles sont pour l'ensemble du système familial. Et on a repéré quand même plusieurs types de conséquences. Alors, pour le parent qui est concerné, une des conséquences vraiment qui ressort le plus, c'est les troubles du sommeil. Quand je dis troubles du sommeil, c'est difficulté d'endormissement, c'est des insomnies, c'est plein de petits de micro-réveils dans la nuit. Donc un parent qui, de fait, se sent aussi fatigué le matin quand il se lève, mais aussi parce qu'il a mal dormi. Et puis là aussi c'est pareil, plus il est fatigué, et moins il va supporter, et moins il va se sentir à la hauteur, et moins il va se sentir bon parent. Et du coup, plus ça va augmenter les troubles du sommeil. Et là aussi, on est dans du cercle vicieux. De la même manière que ça amène des problèmes de santé, puisque un parent qui souffre du burn-out parental, c'est un parent, on l'a vu, qui souffre de nombreux stresseurs. Et on le sait aujourd'hui que le stress amène des problèmes de santé. Voilà, impact aussi là-dessus. Donc plus on a des problèmes de santé, plus on est stressé, plus on a des problèmes de santé. Voilà, donc c'est vraiment comment on va agir à l'origine de ce qui se passe pour le parent et pour la famille. Alors ça peut amener aussi des dépendances. Voilà, je pense à l'alcool, au jeu, au travail aussi, puisque un des besoins en fait du parent qui est en burn-out parental, c'est d'aider, de tenir le coup, d'essayer de se détendre, de se distraire et de s'évader, de partir ailleurs, de plus vivre ce qu'il est en train de vivre, qui est du trop, à la maison. Alors le pendant, c'est que parfois, du coup, le parent va investir, surinvestir l'espace du travail, et qu'on peut se retrouver du coup avec un burn-out professionnel. Ben oui, parce que fuir l'un amène à surinvestir l'autre. Parce que le burn-out parental, il est lié aussi à du surinvestissement. C'est-à-dire que c'est ce rôle-là qui est vraiment surinvesti. Et les autres identités, finalement, de l'individu, l'identité sociale, l'identité professionnelle, elles prennent beaucoup moins de place que l'identité parentale. Et donc aussi, le surinvestissement amène à de l'épuisement. Donc si du coup, tout d'un coup, on se met à surinvestir ailleurs, le risque, il peut être là. Bon, évidemment, ça amène de l'irritabilité, de la colère, mais finalement, les études, elles ont démontré que des parents qui étaient plutôt, à peu près à l'aise avec leurs émotions avant le burn-out parental, le fait de se retrouver dans cette situation n'amplifiait pas particulièrement ce débordement émotionnel, et que ça l'amplifie plutôt pour les parents qui déjà à l'origine étaient pas très à l'aise avec leurs émotions et un petit peu en tout cas parfois débordés, notamment par la colère. Et donc là, pour ces parents là ça vient amplifier parfois même jusqu'à ce que je pourrait appeler entre guillemets des crises d'hystérie, c'est-à-dire vraiment des hurlements, des choses qui débordent et qu'on ne peut plus du tout se retenir, quoi. Ça peut aussi amener à de la négligence, à de la violence verbale ou physique à l'encontre des enfants. Et que ça, ce qui est démontré aujourd'hui par les études, c'est que le risque, il est multiplié par 10 entre un parent qui n'est pas épuisé et un parent qui est épuisé. Et que la plus grande majorité des parents qui sont passés par là peuvent dire qu'au moins, dans du passage à l'acte, il y a eu quelque chose du côté de la négligence. C'est-à-dire que c'était vraiment trop épuisant, même de répondre parfois à certains besoins vitaux des enfants. Voilà. Donc là, ils ne sont pas forcément allés sur du passage à l'acte violent, mais en tout cas, la négligence, quand même, dans la majorité des cas, c'est une des conséquences directes. Alors, une des autres conséquences, c'est aussi parfois les difficultés conjugales. Voilà. Parce que les disputes augmentent, parce qu'il y a une détérioration de la relation, parce qu'il y a un besoin de s'évader, parce qu'il y a une diminution du désir de l'autre. C'est la fatigue en fait qui prend le pas, donc il n'y a plus le désir, je dirais, émotionnel, le désir aussi sexuel dans le couple. Et puis ce besoin, comme on a vu tout à l'heure avec les dépendances, de s'évader, ça augmente aussi le risque d'adultère dans les couples où il y a du burn-out parental. Et puis, s'évader, parfois, ça peut être aussi aller jusqu'à partir, l'envie d'un moment donné de faire ses valises et de partir sans laisser d'adresse. Voilà, vraiment je veux plus en entendre parler, c'est fini. Et c'est là où on a aussi des parents qui en arrivent jusqu'au suicide, parce que c'est la seule solution qu'ils ont trouvée à ce moment-là pour s'enfuir de ce qu'ils sont en train de vivre. Avec des parents qui, quand on est en burn-out professionnel, on peut être en arrêt de travail, on peut démissionner, on peut faire le choix de quitter en fait ce qui participe à notre souffrance. Quand on est parent, on ne peut pas être en arrêt parental. En tout cas, aujourd'hui, ça n'existe pas. Peut-être que ça pourrait exister un jour. On ne peut pas démissionner, on ne peut pas abandonner ses enfants. Donc, à un moment donné, ça peut laisser cette idée aux parents qu'il n'y a pas d'issue de sortie. Il y en a, heureusement. Mais c'est un processus qui est long et qui prend du temps. Et qu'en fonction du moment où on intervient dans le burn-out parental, mais finalement, ça peut déjà s'être étendu finalement à d'autres sphères de la vie, comme on disait par exemple tout à l'heure sur le burn-out professionnel, et amener jusqu'à la dépression. Et à un moment donné, on ne sait plus ce qui appartient au burn-out parental de ce qui appartient à la dépression. Et là, il y a tout ce travail aussi de décortiquer, de faire des diagnostics qui peuvent aider justement à être sur le point de départ de dire... C'est en ça vraiment que je remercie moi la maison de quartier ici de pouvoir commencer à parler de l'épuisement parental, parce qu'en fait c'est la première étape. Et la première étape, c'est déjà parlons-en, et c'est parce qu'on en parle qu'on va pouvoir petit à petit permettre que le parent qui est concerné, il puisse commencer à en parler. On est où dans le timing?
Je vais dépasser largement.
Ok, je m'arrête là, puis je me dis que peut-être le reste, on pourra en parler. Mais peut-être la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est vraiment par rapport à ce que je viens de dire, c'est le burn-out parental, vraiment pour pouvoir commencer à se sortir de ça, c'est déjà plus on va être dans de la prévention, et plus on va à un moment donné regarder que notre balance, elle est en train de se déséquilibrer et que ça fait longtemps. Et plus on va pouvoir traiter à l'origine de ce qui se passe, mais même quand on en est rendu loin, finalement, on peut aussi mettre des choses en place et être accompagné par des professionnels pour pouvoir se sortir de cette situation.